Mais ça me fait teint d'être avec vous, votre jeunesse, votre spontanéité, garder vraiment cette fraîcheur que nous essayons aussi de garder. Je vais vite chercher la petite télécommande. Merci beaucoup. Donc, on est tellement reconnaissant ce soir. Ah, mais en plus, un pupitre, là, c'est magnifique. On est tellement reconnaissant ce soir de savoir Nicolas, papa, vous rendez compte? Nicolas, et bien sûr, il n'a pas fait un bébé tout seul. Hein, Mélodie était quand même là pour l'aider un petit peu. Et Mélodie, qui est maman, et ce soir, nous sommes en plein dans ce que Nicolas m'a demandé donc, de vous partager. J'espère que je pourrai faire aller cette histoire, il faudra m'expliquer un petit peu tout à l'heure. Sur une identité inébranlable. Alors, comment est-ce que je fais ici? C'est juste ceci ici. C'est quel bouton? Tu sais, celui-là peut-être, le premier là. Ah, il n'y a pas de souci. Et c'est quel bouton? D'accord, ok. Très bien, alors on va essayer là, d'accord? Voilà, mais ça marche, formidable. Une identité inébranlable, et comme Abraham l'a annoncé tout à l'heure, c'est vrai que cette identité, vous l'aurez compris, nous l'avons pleinement en Jésus-Christ. Et nous vous encourageons toujours avec la parole de Dieu de resituer le contexte pour une révélation, parce que vous savez que la parole de Dieu est vivante, elle est établie depuis bien des siècles, amen. Et vous trouvez tout dans la parole de Dieu. En tout cas, tout ce qui est du problème de l'humanité, tout ce qui est du problème de la mort, tout ce qui est du problème de la maladie, tout ce qui est du problème des luttes, tout ce qui est du problème de ce qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et malgré votre jeunesse, vous êtes d'accord que vous avez déjà pas mal des fois de problèmes, oui? On est d'accord. Alors moi, je vous encourage vraiment à ouvrir la parole de Dieu maintenant dans Genèse. Et ce qui est formidable, c'est que Genèse, justement, va poser le contexte pour trouver comment est-ce qu'on va se situer par rapport, justement, à cette identité inébranlable. Donc, nous sommes bien à Impact Jeune ce soir, le 7 décembre. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous féliciter pour la décoration. On se sent tellement bien chez vous. C'est vraiment super. Bravo en tout cas pour votre déco et ce que vous arrangez pour ces soirées. Voilà, alors, une identité inébranlable. Savez-vous où se trouve cette question? Bon, je vais un petit peu vous aider. Nous sommes dans la Genèse. Il y a cette question, littéralement, où es-tu? Et pour commencer vraiment notre enseignement ce soir, il nous faut absolument entrer dans cette dimension, ou plutôt comprendre ce qui s'est passé dès le départ dans l'histoire de notre humanité, avec cette question, où es-tu? Et ce soir, le Seigneur te pose cette question. Parce que dans ta vie, tu dois obligatoirement te situer. Qui c'est qui m'aide un petit peu? Où es-tu? Qu'est-ce que cette question vous dit? Qui a posé cette question? N'allez pas chercher trop loin. C'est le Seigneur. Et il la pose à qui cette question? À Adam. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné du Seigneur au travers justement, malheureusement, dans la désobéissance, au travers justement de ce qui s'est passé dans l'événement. Donc on va le lire simplement. Genèse 3, au premier verset jusqu'au verset 9, et c'est l'événement de la chute. Et je voudrais vraiment insister déjà ce soir sur quelque chose d'important. Donc on est à l'événement de la création. Vous savez que Dieu a créé les cieux et la terre, et a aussi créé, vous vous rendez compte, vous êtes le couronnement de la création de l'Éternel. On dit « last but not least », c'est-à-dire les derniers, mais pas des moindres, d'accord? Vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Vous avez été créés, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Et Dieu a créé tout ce que vous voyez. En plus, il vous a mis dans cette grâce de la création en vous créant et en couronnant sa création. Il a même dit, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il vit que c'était même très bon. D'accord? Donc, toutes les créatures de l'Éternel ne sont pas, bien entendu, des accidents. Et je pense que ce soir, tu peux aussi être guéri de savoir que ton identité est comprise dans la création de l'Éternel de ta vie parce que le Seigneur t'a voulu. Tu n'es pas un accident ce soir. Amen. Et ça, c'est important. Regardez, premier verset, le serpent. Ben, il faut qu'il en mette un petit peu du sien, là, le serpent, pour essayer malheureusement de contrer tout ce qui est de la création merveilleuse de l'Éternel. Il fallait que le serpent, malheureusement, s'en mêle. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu se base, et ça je voudrais aussi vous donner comme principe, l'amour de Dieu se basera toujours sur un choix que tu devras faire. D'accord ? Comment est-ce que tu vas être testé dans l'amour du Seigneur et dans l'obéissance du Seigneur si tu n'as pas la possibilité de désobéir ? S'il n'y avait pas eu le phénomène, ou plutôt l'élément de la tentation dans Genèse 3, nous aurions été les marionnettes du Seigneur. C'est-à-dire que nous aurions été obligés d'aimer le Seigneur. Comme la marionnette qui est conduite par justement une main de maître, ça peut être celle du Seigneur. Et si nous n'avions pas eu le choix de prouver notre amour pour le Seigneur par l'obéissance, nous aurions été des marionnettes du Seigneur. Et comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons aussi la possibilité de choisir ou non d'obéir au Seigneur. Vous êtes d'accord que Dieu est complètement libre. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, le Seigneur nous a créés aussi complètement libres de l'aimer ou non. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Sinon, nous aurions été forcés d'aimer le Seigneur. Et le Seigneur ne forcera jamais quiconque à l'aimer. Et c'est pourquoi il a permis ce temps, si vous voulez, de la tentation. Bon, bien entendu, le serpent est venu pour essayer de faire, entre guillemets, excusez-moi le terme, passez-moi le terme, foirer la création du Seigneur. Parce que le diable, vous savez, c'est l'adversaire, il est toujours opposé au plan parfait de Dieu et au plan parfait que le Seigneur a mis sur ta vie. Et le serpent, le diable, le séducteur, va toujours être là pour essayer de compromettre ce plan parfait dans ta vie. Et cela a commencé dès la Genèse. Alors je lis, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous savez que le serpent a aussi été créé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? On voit déjà comment le tentateur et le séducteur travaillent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Il y a là cet arbre qui est placé au milieu du jardin, pas comme un appât, mais comme possibilité à Adam et Ève de choisir d'obéir à Dieu ou non, c'est-à-dire de l'aimer ou non, et cela passe par l'obéissance. Regardez le serpent, là, au verset 4, dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'est un demi-mensonge. Parce que ce n'est pas parce que je vais passer par la mort physique que je vais arrêter de vivre. D'accord ? Et ça, le diable essaye de séduire Ève. Pour lui dire, vous ne mourrez point. En quelque sorte, il avait raison. Parce que dès le moment où tu entres dans cette dimension de création avec le Seigneur et que tu deviens un être vivant, tu vas vivre éternellement, même si tu vas mourir, parce que ton âme et ton esprit sont éternels. D'accord ? Donc là, il y a eu un demi-mensonge. Alors bien sûr, la mort physique est une conséquence de la séparation de Dieu, de cette communion spirituelle avec Dieu. Ça, c'est la conséquence, on est d'accord ? Et dans cette mort, il y a la mort physique, mais l'âme et l'esprit vivent éternellement. Donc, vous voyez déjà ce premier demi-mensonge ou demi-vérité du diable. Je préfère dire demi-mensonge, voilà, parce que le diable est un menteur. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, vous rendez compte, connaissant le bien et le mal. Comme si la connaissance du bien et du mal élevait l'homme à une position de Dieu. C'est absolument étonnant. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bien sûr que Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, il n'y avait pas encore des choses venimeuses, on va dire, dans le jardin. Donc c'était quelque chose de bon, mais il y avait un autre venin. C'était celui du serpent qui voulait justement faire désobéir Adam et Ève. Donc la femme vit que l'arbre était bien à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. On voit ici l'homme qui est complètement déjà déresponsabilisé pour ne pas protéger sa femme parce que justement Ève prend de ce fruit sans Marie était à côté et il l'en empêche. Messieurs, là, les garçons, malheureusement, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous colle déjà à la peau depuis le commencement. Prenons nos responsabilités de protéger l'épouse, et je vous souhaite des épouses, enfin une épouse et un conjoint selon le cœur de Dieu. Mais en tant qu'homme, nous avons l'autorité justement de protéger aussi notre épouse. Et là, malheureusement, Adam a failli à son devoir de protecteur pour dire « Ève, ne touche pas à cet arbre ». Pourtant, Adam était auprès d'Ève. Et combien on entend malheureusement dans les foyers encore actuellement des hommes qui ne prennent pas leur responsabilité de père, qui ne prennent pas leur responsabilité de protecteur dans le foyer. Vous voyez que ça commence déjà ici en Genèse. Alors, elle va donner aussi à son mari, lui le pauvre naïf, excusez-moi, mais il va simplement prendre le fruit. Peut-être qu'il était tellement ébahi par la beauté de son épouse, ça devait être certainement une très belle femme. Enfin voilà, je ne vais peut-être pas forcément épiloguer là-dessus. Mais c'est vrai que nous les garçons, des fois, nous perdons nos moyens, n'est-ce pas ? C'est ce qu'en tout cas Adam a eu comme conséquence malheureuse. Il aurait dû se ressaisir. Donc, il était aussi près de la femme, il était près de cet arbre, et puis ils en ont mangé. Regardez, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est marrant, c'est étonnant de voir que la sexualité là a été davantage révélée. C'est étonnant. Et ayant cousu des feuilles de figuier, de circonstances, ils s'enfuirent des ceintures. Verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Commencement de la catastrophe, désobéissance, peur de Dieu, éloignement de Dieu, on se cache de Dieu. Et lorsqu'on se cache de Dieu, Dieu a le cœur brisé. Une petite histoire, chacun peut-être d'entre vous a peut-être perdu ses clés, perdu son attel, perdu peut-être une serviette, perdu de l'argent, et c'est ennuyeux, vous êtes d'accord, quand on perd, parce que c'est quelque chose qui vous appartient, on est d'accord. L'autre jour j'avais perdu mes clés, mais qu'est-ce qu'on est embêté. Alors si moi, pauvre homme que je suis tellement ennuyé par la perte de mes clés, par la perte de mon attel, parce que moi on est pas mal dépendant quand même, il faut le dire, moi je suis autant dépendant que vous, juste la petite histoire, non c'est pas vrai, c'est vrai que nos attels sont là, ils nous rendent bien service, on le pompe, c'est embêtant, imaginez-vous le cœur de Dieu, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais le cœur de Dieu qui perd l'homme, par sa désobéissance, par sa faute, qui perd Adam et Ève. Et ce qui me bouleverse dans le récit de la Genèse, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, de Dieu bien sûr, au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Et c'est le premier cri de l'Éternel qui a le cœur déchiré qui résonne dans le jardin d'Éden « Où es-tu ?» C'est le premier cri. Parce que Dieu savait qu'il avait perdu ce qui était le plus cher, le couronnement de la création, c'est-à-dire Adam et Ève. Et dès le moment, ce cri montre que tous nous sommes perdus. Que tous, par ce péché commun d'Adam et Ève, nos parents, communs, eh bien, nous sommes tous éloignés du Seigneur. Et ce cri « Où es-tu ?» fait de nous, malheureusement, des perdus. Alors, j'ai noté ici pourquoi cette question, j'y ai répondu, tout simplement pour nous démontrer encore ce soir que nous sommes perdus. Parce que lorsque l'Éternel te dit « Où es-tu ?», c'est que tu as besoin de retourner à l'Éternel. L'identité inébranlable est impossible à obtenir en dehors du plan de Dieu et en dehors de la communion avec le Seigneur. Pourquoi cette question ? Parce qu'elle me montre que je suis perdu. Pourquoi cet appel de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cet appel de Dieu? On peut un petit peu travailler ensemble ce soir. Pourquoi il y a cet appel de Dieu? Répondez spontanément, ne vous gênez pas. Pourquoi il y a cet appel de Dieu? On en a déjà parlé, bien sûr. Pourquoi il y a cet appel de Dieu? Comment? Parce qu'il y a la vie, bien sûr, avec la communion du Seigneur. Parce que la mort a été engendrée, c'est très bien, Christophe, oui, pour vivre. Quand Dieu veut mettre un appel sur ta vie, quand le Seigneur te dit « Où es-tu ?» C'est tout simplement parce que tu veux donner cette vie en abondance. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette question? Pourquoi cet appel du Seigneur? Pourquoi? Par amour, exactement, c'est ce que je pensais. C'est parce que Dieu nous aime tellement et par notre désobéissance, par cette désobéissance, le Seigneur voit qu'il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui est né de différent que cet amour complet qu'il peut lui témoigner justement par notre obéissance. D'accord ? Et tout cela marque bien entendu le Dieu de l'Alliance. Parce que tout ce que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu passe justement par l'Alliance de l'Éternel. Qui sait spontanément qui pourrait me lire ce passage de Genèse 12, premier verset suivant. Est-ce que tu veux le faire, Abraham, pour moi ? Genèse 12, à partir du premier verset.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Voilà, merci beaucoup. Donc on voit effectivement cette alliance qui est donnée à Abraham, père de la foi. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il y a cette alliance de l'Éternel où le verset 3 est très clair. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'identité inébranlable se trouve dans cette bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Pourquoi ? Parce que Abraham a cru à son Dieu. Abraham a été prêt à sacrifier le fils de la promesse au mont Morija, qui a été justement ce mont où Jérusalem et le temple de l'Éternel plus tard a été construit. Et lorsqu'on parle d'identité, nous passons automatiquement par cette bénédiction de l'Éternel que l'Éternel adresse à Abraham, alors que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham par la foi, par la confiance que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Donc l'identité inébranlable se place toujours en perspective de l'alliance avec le Seigneur. Amen. Où es-tu, cette question? Bien sûr, on vient de voir Genèse 3, 1 à 9, Dieu de l'alliance dans cette perspective de Genèse 12 qu'on vient de lire du premier verset jusqu'au verset 3. Alors, bien sûr, cette question de Dieu répond, bien entendu, à une appartenance, parce que quand on parle d'identité, effectivement, inébranlable, eh bien l'identité est de toute manière reliée à une appartenance propre. D'accord ? Quand vous êtes né dans une famille, eh bien vous appartenez à cette famille, vous n'êtes pas un étranger, vous êtes d'accord ? Cette question « Où es-tu ?» répond aussi à un besoin essentiel que chacun a, une identification claire de sa personne, de qui on est vraiment. Seigneur te pose cette question, où es-tu ? Mais parce qu'il veut absolument que tu puisses de nouveau revivre cette relation tellement proche avec lui. Et nous verrons comment tout à l'heure. Au plein. Ouh là 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 là. Ben, vous avez la réponse, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Oh là 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 là, catastrophe. Voilà. Bon, ben, je voulais vous faire deviner ce que c'était, vous l'avez en réponse. Vous auriez su ? Je pense quand même. Et on va voir juste brièvement cette histoire, parce que finalement, dans l'identité propre et dans cette identité inébranlable, nous devons bien entendu revenir sur cette histoire du fils prodigue que vous connaissez certainement, mais je pense qu'elle est importante à revoir. Et là, j'aimerais une lectrice, s'il vous plaît, si une jeune femme pouvait nous lire cette parabole à partir du verset 11 de Luc 15 jusqu'au verset 32. Qui se lance parmi nos chères sœurs ce soir, s'il vous plaît? Donc Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'à 32. Qui se lance? Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Une sœur.
Coucou.
Allez, aidez-moi un petit peu, je me sens un petit peu seul ici. Qui se lance? Toi? Super, merci. Donc tu lis Luc 15, 11. Luc 15, 11 à 32. Voilà, merci beaucoup.
J'ai une semeur. Ok. Ok. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit : Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celui qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, ce cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ce pays-là, et il commença à manquer de nécessité. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouirons car voici mon fils, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras et en son honneur. parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais n'ai-je désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revint, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tuas le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et le voici qu'il est retrouvé. »
Merci beaucoup. Comment c'est ton prénom ? Comment c'est ton prénom ? Comment ? Marthe. Merci Marthe. Oh, très bon prénom. Voilà, donc cette histoire dans l'introduction qu'on vient d'avoir, je pense, a tout son sens, vous êtes d'accord ? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue ? Un jeune homme, impatient, qui demande justement l'héritage de son père. Ensuite, l'argent coule à flot, les petits copains coulent à flot aussi, le vin et la noce coulent à flot aussi. Ils font des noces et des noces et des noces. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Les petits copains s'en vont. Et lui, malheureusement, dans la misère dans laquelle il se retrouve, justement, et vous voyez, pour un juif, c'est absolument humiliant de s'occuper de porcs, d'accord, au point qu'il meurt de faim, qu'il désire même la nourriture de ces porcs, je ne peux pas m'imaginer les odeurs qui allaient avec, enfin bref, ça c'est vraiment l'éloignement de la maison, l'éloignement du Père bienveillant qui nous fait traîner malheureusement dans le péché pour être complètement perdu. Et là, quand on est dans ce point, à ce point, dans cette mouise, comme on dit, on ne peut pas dire autre chose, eh bien on commence un petit peu à réfléchir. Vous avez vu que ce jeune homme est rentré en lui-même. Et quand on commence à rentrer en soi-même, c'est pas mal, parce qu'on se dit, ben, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ma situation catastrophique, n'est-ce pas ? Sinon, ça ne va pas, il y a un problème. Et il refait le film de nouveau, en retour, et puis se dit, oulala, c'est vrai, quand j'étais dans la maison de mon père, identité inébranlable. Quand j'étais dans la maison de mon père, j'étais bien. Alors, je ne demande pas que vous restiez chez vos parents, d'accord ? On comprend l'image. Vous allez une fois vous séparer de vos parents, quand vous allez vous marier, je vous souhaite tous cette grâce. Mais dans la maison du Père céleste, c'est là que nous sommes en sécurité. Et il s'est souvenu de cela. Parce que là, il y a la protection, il y a la bienveillance du Père. Il y a à manger, il y a la sécurité. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est qu'il y a ce chemin de retour, et quand on parle de chemin de retour, on parle de la repentance. La repentance, c'est quand tu réalises que tu es complètement planté, mais tu t'es planté de chez planté, et là c'est le commencement de la vie et du retour à la vie. Parce que c'est là que tu vas faire un chemin de retour pour retourner en direction de la vie. Et regardez comme il est cache, ce jeune homme. C'est magnifique. Au verset 18, je me lèverai, on se lève, on prend position. Quelles que soient les circonstances, si tu es encore sain d'esprit, parce que là, il y a de quoi péter un câble, hein, je veux dire, commencer à manger la nourriture des porcs. Alors, si on est encore sain d'esprit, ça peut aller plus loin. Malheureusement, on peut tomber dans les choses absolument épouvantables. Mais si on est encore sain d'esprit, je me lèverai, je prendrai position, j'irai. Vous voyez, il y a une action de se lever, de partir, et j'irai vers mon Père. Amen. C'est là que j'aurai mon identité inébranlable. On parle du Père, là. Bien sûr, tu transposes avec ton Père céleste ce cri « Où es-tu ?» depuis le commencement de l'humanité. J'irai vers mon Père, mon Père. C'est encore mon Père, c'est encore ton Père céleste. Amen. Je ne sais pas où tu en es ce soir. C'est encore ton Père céleste dès le moment où tu te lèves et tu prends cette direction de retourner vers ton Père. Et je lui dirai, il y a quelque chose de cache, Père, pas étranger, Papa.
Daddy!
Regarde ce qu'il dit. J'ai péché. Je me suis planté. Il n'y a pas de fausse humilité, il n'y a pas de fausse apparence, il n'y a pas de masque. Ouais, écoute, franchement, c'était quand même dur chez toi, il fallait bosser, puis j'en avais marre, et puis il n'y a pas d'excuse. J'ai péché. L'identité inébranlable commence par le fait, bien-aimé, que je reconnais que j'ai péché, que je suis un pécheur. Et c'est cela qui va me faire retourner dans la famille propre, celle du Père, dans cette communion tellement parfaite avec le Père. Et regardez, il ne le dit pas qu'une fois, verset 18. Il le redit en présence du Père, verset 21. Donc il le pense, il le projette, mais il va encore le faire. Verset 21, le Fils lui dit, Père. Vous voyez, donc il y a toute cette rencontre. Verset 20, il se leva, il alla vers son père. Il se leva, il alla pas faire la noce. Il se leva et retourna vers son père, d'accord ? Et comme il était encore loin, son père, bien sûr qu'il l'attend, toute compassion formidable, le vit, son père, tous les jours, devait certainement se tenir sur les pas, sur le pas, ou plutôt sur la porte de la maison, le pas de la porte de la maison, et fut touché de compassion. Quand tu retournes vers le Père céleste, dans cette identité inébranlable, c'est la compassion de ton père qui t'établit. Amen. Il courut même, c'est même pas le fils qui court, c'est le père qui court vers son fils. Se jeter à son cou pour l'embrasser sans reproche, affection qui n'est pas détruite, parce que le Père aura toujours compassion. Et lorsque le fils, la fille rentrent à la maison, à la présence du Père, il y a cet accueil absolument extraordinaire. Et regarde la première parole du fils. Oh papa, écoute, c'était dur avec les cochons, j'avais bien à manger chez toi, c'était formidable. Non, il commence pas comme ça. Il lui dit « Père ». Il l'appelle dans la reconnaissance de qui il est. Lui, c'est toujours le Fils, et le Fils s'adresse au Père. « Père, tu es toujours mon Père. » Magnifique, c'est tellement beau. On pourrait faire des films là-dessus, je pense qu'il y a déjà des films qui existent. Là, tu vois, tout le monde pleure au cinéma, quoi, je veux dire, c'est... T'es touché, t'en peux plus, t'es bouleversé, t'as la compassion du Père, t'as le Fils. Non, mais c'est formidable. Non, moi, je suis un petit peu poétique là au milieu, mais c'est beau, c'est beau. La parole de Dieu est tellement belle, il faut vous mettre dans le film là. Et c'est la réalité. Et il lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, il est cache. C'est ça qui engendre la vie, bien-aimé. D'accord ? J'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et regardez la réaction du Père. Et vous connaissez tout le reste parce qu'on ne veut pas passer toute la soirée là-dessus, mais il lui donne cette robe, il lui donne cet anneau, il le raccueille dans sa famille, il va tuer le veau gras. Bien sûr, après, il y a la jalousie du frère, etc. Et tout, on verra tout à l'heure comment ça se passe. Mais je trouve tellement magnifique que ce retour commence par la repentance, le fait de se lever, d'aller vers le Père et d'avouer « je me suis complètement planté, papa ». C'est magnifique. Et là, le cœur de Dieu déborde. Et c'est la fête, malgré la bourde que ce jeune homme a fait, malgré si il a tout dilapidé son héritage, qu'est-ce que ça peut bien faire, entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup de douleur par rapport aux héritages dilapidés, on est d'accord. Mais ce qui est important, c'est la fin de la parabole, quand le père dit au frère aîné, à son frère, il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voilà était mort. Loin de moi, loin du Père, on est mort. Et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu. On parle de perdition. Le péché qui nous entraîne dans la perdition. Et qu'il est retrouvé. Retourné dans la présence du Père fait de toi un retrouvé. Amen. Alors, le fils prodigue, bien entendu, nous venons de le lire. Pourquoi est-ce que je mets contexte ? Parce que je vous invite aussi toujours à lire la parole de Dieu. Et regardez le passage de ce fils prodigue. Suit juste ce que nous avons au début du chapitre 15, c'est cette brebis perdue et cette drachme perdue justement. Et quand on lit cette histoire et que vous pouvez relire cette histoire à partir du premier verset du chapitre 15, nous sommes aussi tous et toutes des brebis perdues. Et Jésus parle de cette brebis perdue que lui-même, le bon berger, va rechercher, bien entendu, il va même laisser les 99 pour aller chercher juste celle qui s'est perdue. Et ensuite, dans la grâce du Seigneur, il y a cette histoire du fils prodigue qui vient appuyer l'amour du Père pour nous expliquer comment est-ce que ça se passe. Je me régale ce soir, j'espère que vous aussi. Replacez toujours la parole de Dieu dans son contexte. Il y a une ampleur absolument extraordinaire qui s'y dégage dans la révélation de ce contexte. On parle bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Dieu de l'Alliance depuis Genèse 12, c'est toujours le lieu de l'Alliance. Alors, je ne sais pas si on a le temps, je pense qu'on n'a pas forcément le temps ce soir, peut-être spontanément, parce que j'aurais bien voulu qu'on fasse éventuellement quelques groupes, mais j'avais quand même cette question ce soir à vous poser, parce qu'on se place quand même dans le contexte de cette soirée et de ce récit, mais comment comprenez-vous cette histoire? Si un ou deux peut-être pourrait intervenir. Comment est-ce que tu comprends cette histoire ce soir, spontanément? Oui, Christophe.
Je peux rester assis? En fait, si vous voulez, j'ai été baptisé dans cette église, j'avais 17 ans, et sans grande connaissance du Seigneur, alors qu'il était toujours à mes côtés, il était toujours là, mais sans une grande connaissance et des bonnes racines ancrées justement dans la parole, j'étais complètement à l'opposé, mais totalement à l'opposé. Et il a vraiment fallu quasiment 10 ans plus tard, juste un peu moins, pour que je puisse me réveiller. En fait, j'étais dans une situation où j'étais en train de tout perdre, même si j'avais beau bien réfléchir, bien avancer dans le monde, en fait, le monde il te tue. Et clairement, ça n'allait pas. J'ai ouvert la Bible et c'est vraiment là où Jésus en fait, a vraiment couru pour me rattraper. Et, c'est ça en fait, ouais, ça me parle.
Voilà, merci beaucoup Christophe. Donc tu t'identifies dans le fait que tu étais perdu et que tu as vu Jésus revenir à toi justement, plutôt connecté avec toi, un retour à Jésus. Et tu as vu Jésus qui t'accueillait de nouveau justement dans cette grâce du pardon et de l'alliance. Magnifique. Quelqu'un d'autre, comment est-ce que vous comprenez cette histoire? Est-ce que vous arrivez à vous identifier à cette histoire ce soir? Est-ce que quelqu'un voudrait encore intervenir? Si vous voulez, on peut passer à la deuxième question. Oui?
Personnellement, il y a une chose qui me frappe énormément dans ce texte, c'est aussi quand le fils fait son monologue dans la tête en train de se dire « je vais retourner chez mon père », il s'attend à revenir et être esclave. Et le père, quand il court vers lui, il ne le reprend pas comme esclave, il le reprend comme fils. Et combien de fois on essaye de revenir vers Dieu en train d'essayer de négocier? Si tu me reprends, je vais être fidèle, je vais revenir, je vais faire plein de choses. Mais Dieu ne te reprend pas pour ce que tu peux faire. Il te reprend pour qui tu es, pour son fils.
Oh là là, on sent l'onction là. Hein. C'est tellement fort ce que tu dis aussi. C'est magnifique, c'est vrai. On va s'en souvenir de ça, oui. Le fait peut-être de se considérer comme un esclave, c'est que je suis complètement planté. On voit Dieu, le Père, qui seul peut rendre la dignité et te rétablir comme fils. Alors effectivement, que toi tu demandes juste d'être considéré comme un esclave de la maison, quoi, et de rentrer à la maison, t'établit de nouveau comme fils. Et ça fait partie de l'identité inébranlable. Magnifique, c'est super ce que tu as dit aussi, Gor, c'est super. Merci. Est-ce que cette histoire est encore actuelle? Je pense qu'on est tous d'accord. Elle est encore actuelle. Elle le sera jusqu'à la fin. D'accord? Qu'auriez-vous fait à la place du fils prodigue ? Continuer de manger la nourriture du porc ? C'est un peu une question, entre guillemets, simpliste. Mais vous auriez fait quoi ? On peut se mettre un petit moment dans ces baskets, là ? Je ne sais pas s'il en avait encore, hein. Je pense dans la mouise des porcs. Ça devait... Bref. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je pense qu'on aurait tous fait la même chose, vous êtes d'accord ? Je ne pense pas qu'on peut se complaire dans une telle saleté, une telle puanteur à un moment donné. Mais des fois, malheureusement, il faut quand même se poser la question. Des fois, on en arrive dans nos vies ou dans des situations. On n'a pas besoin de se sentir mauvais, on est d'accord. Mais des fois, les situations elles-mêmes sentent mauvais. Et c'est l'occasion de pouvoir retourner au Père. Une question encore, qu'auriez-vous fait à la place du Père ? C'est bien de se mettre un petit peu aussi dans la tête du Père. Alors, je pense que la plupart de vous, vous n'êtes pas encore parents. Est-ce qu'il y a des parents parmi nous ? Bon, il y a juste Nico qui pourrait lever la main ici. Hein. Des parents ? Oui ? Magnifique. Donc vraiment, les parents connaissent ce que c'est que d'être maman ou papa. Et c'est vrai que lorsque nous engendrons le fruit de notre amour qui se manifeste en un être qui est fait de notre chair, et c'est formidable, c'est que Dieu nous a donné la capacité de créer à partir de rien aussi. Parce que vous êtes d'accord qu'un spermatozoïde, si on parle un petit peu technique, et ovule à l'œil nu, on n'y voit que dalle, excusez-moi, rien du tout, vous êtes d'accord ? Donc c'est vrai, Dieu nous a donné la capacité de créer à partir de rien, entre guillemets. Bon, c'est vrai que la technique maintenant nous montre comment ça se fait, c'est formidable, vive le 21e siècle, le 3e millénaire. Mais quand on a les entrailles d'une maman, les entrailles d'un père, je pense qu'on aurait fait la même chose, vous êtes d'accord ? Si Dieu a un tel cœur, je pense que ce cœur est aussi déposé en nous qui pouvons être parents. Et nous souhaitons cette magnifique expérience. Maintenant, la dernière question, elle se pose quand même aussi. Qu'auriez-vous fait à la place du grand frère ? Qui c'est qui répond spontanément ? Allez, on ne va pas se gêner là. Un petit peu jaloux là quand même. Hein ? Tu le veux gras et tu n'as même pas fait une petite bœuf brebis, Seigneur. Là, hein ? On n'a pas cassé la croûte ensemble. Là. Aïe, 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 aïe. Un sentiment d'injustice peut-être, jalousie. Est-ce qu'il s'est fait à l'amour du Père ? Ça, c'est une question. Souvent, vous allez m'entendre dans mes prédications, mais est-ce qu'on se fait à l'amour de Dieu ? On peut s'y faire. Non, mais c'est grave. D'avoir l'habitude de la bonté de Dieu. Non, mais attends. Mais c'est grave. D'avoir l'habitude de la maison du Père comme un dû. Un truc qui joue pas, là. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place du grand frère ? Pardon. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Peut-être j'aurais réagi comme le grand frère. Peut-être j'aurais été jaloux. Ouais, c'est pas moi qui ai dilapidé tous ces sous, quand même. Enfin, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Question reste posée, hein. Toujours pour le fils prodigue, donc ce qu'on vient de voir, voilà, Dieu de l'Alliance, le contexte, les faits, il y a la perdition. Le Père même le dit, que le fils était perdu. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant là, dans les faits ? Il y a le besoin d'un miracle. Je pense que l'identité inébranlable est dû au miracle de l'amour de Dieu. Bien-aimés, ne vous faites jamais à l'amour de Dieu. Bien sûr, je mets un point d'interrogation, est-ce que ça fait au salut ? Mais bien entendu, quand on parle de perdition, c'est bien parce que je suis perdu que j'ai besoin du salut et que j'ai besoin de retourner justement dans la maison du Père pour retrouver cette identité inébranlable. Et ça rejoint exactement ce qu'Abraham a dit au début de la rencontre. Vous vous souvenez que l'identité qu'Abraham a reçue passe justement par Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, c'est qu'on a besoin d'un sauveur. C'est qu'on a besoin du salut seul en Jésus-Christ. Amen. D'accord? Je crois qu'on est d'accord là. Hein? Pour être sauvé, je dois me sentir perdu. Tu peux pas aller dans la rue pour dire « t'as besoin de salut » quand la personne se sent tellement bien comme ça, ça roule, c'est magnifique, c'est génial. Non, non, je me sens pas perdu. Mais si tu te sens pas perdu, ben, tu vas pas être sauvé, on est d'accord? C'est celui qui se sent vraiment, c'est celui et celle qui se sentent vraiment perdus qui ont besoin de salut. Les pharisiens, ils en avaient rien à cirer de Jésus, excusez-moi du terme. Au point d'aller le crucifier. Parce que ça roulait pour eux, hein, tranquille, hein. Pourquoi être sauvé? Nous, ça va bien. Hein? Toi, tu es un imposteur, tu te prends pour Dieu, on va te crucifier. Bon, je suis dur ce soir. Mais c'est ce qui se passe dans la tête des gens encore actuellement. Qu'est-ce que tu viens de me raconter avec ces salades de salut, machin? Tout va bien, je ne me sens pas perdu. Donc, le salut est accordé pour celles et ceux qui se sentent vraiment perdus comme ce fils prodigue. Autrement dit, tu ne peux pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. D'accord? Je pousse un petit peu le trait ce soir. Si tu te sens absolument perdu, c'est là que le Seigneur va te sauver. Et c'est là que tu vas commencer à crier à ton Père Céleste pour qu'il puisse pleinement te sauver. Amen. Sinon, si tu ne te sens pas perdu, pourquoi être sauvé? Ça marche? Allez. Bon, on sait que c'est le fils prodigue, d'accord. Ok. Allez, s'il te plaît, vas-y. Le Dieu d'alliance. Alors, ici j'ai noté la notion de base du salut obligatoire. J'ai marqué, bien entendu, que c'est obligatoire hein, pour le recevoir. Donc, le fait de sentir et de reconnaître que nous sommes vraiment un pécheur, en plus pécheur perdu, il faut avouer que ce n'est pas très riche, hein, de sentir pécheur perdu, on va dire que les carottes sont cuites, on a vraiment besoin d'un sauveur, on est d'accord. Hein. Ensuite, on a besoin du salut. Nous avons aussi, bien sûr, le fait de passer, je passe de l'esclavage du péché au statut, et c'est important, de fils et de fille, d'accord? De fils et de fille par, on l'a vu tout à l'heure, la repentance. Donc le fait de retourner sur sa vie, de voir qu'on s'est complètement planté et de savoir que nous avons besoin de nous lever et de retourner vers le Père. Je rentre à la maison, ça c'est l'histoire du fils prodigue, pour être accueilli par mon Père Céleste qui soulignait cela, vous accueillera toujours. Le Père Céleste a toujours un cœur pour vous aimer et pour vous accueillir. Il l'a tellement manifesté par l'amour de son Fils crucifié à la croix pour chacun d'entre nous. Nul n'est exclu de la grâce du Seigneur. Ça va ? On parle toujours d'identité, bien entendu, inébranlable, le Dieu de l'Alliance. Alors, bien sûr, cette identité inébranlable, cette question de « Où es-tu » Souvenez-vous ce soir qui était le premier cri de Dieu dans l'humanité et dans la création. Le premier cri de Dieu, c'était pour Adam et Ève qu'il avait perdu par leur désobéissance. Des fois, on voit toujours l'histoire en disant « Oui, Adam et Ève ont péché, donc ils se sont éloignés de Dieu. » D'accord, ça c'est le fait. Mais on oublie toujours que Dieu, dans cette question « Où es-tu ?» a perdu quelqu'un de très cher. Adam et Ève, couronnement de la création. Et Dieu a eu un cœur déchiré. Alors bien sûr, cette « Où es-tu ?» manifeste en fait cette perdition et Adam et Ève qui ont été atteints par le péché et qui sont devenus malheureusement esclaves de leur désobéissance pour être éloignés de Dieu et qui malheureusement entraînera cette mort spirituelle et cette mort spirituelle, cette séparation avec Dieu parce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden entraîne justement cette mort spirituelle et cette mort physique. Bien sûr qu'on passe par la repentance. On passe, bien entendu, par l'acceptation honnête des faits. Vous avez vu le fils prodigue qui dit « par deux fois, j'ai péché ». J'ai péché. Donc il y a cette acceptation de la situation pour être accepté, bien sûr, aussi par le Père. Il y a la dimension de la filiation, quand on parle de fille et de fils de Dieu. Il y a cette dimension de la filiation dans l'identité inébranlable. En retournant à la maison du Père par Jésus-Christ, tu es déclaré fils et fille de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est la vraie filiation qui te donne de faire partie de la famille de Dieu et qui te donne cette identité inébranlable. Je trouve extraordinaire. Il y a bien entendu la restauration. On ne parle pas seulement de nourriture. Bien sûr que le fils prodigue a eu un repas formidable. Mais on parle de sa restauration entière, de sa personne, dans la dignité que le Père lui donne en le revêtant de cette robe et de cet anneau absolument formidable qui montre qu'il est fils. Et il y a l'établissement de nouveau et le rétablissement, qu'on pourrait dire, dans la maison du Père. Bien sûr qu'il y a aussi la dimension de l'héritage dans l'identité inébranlable. Parce que le fils, même s'il avait touché son héritage, le vrai héritage, c'était celui d'être dans la communion de nouveau du Père et d'être dans la présence du Père. Amen. Alors, allez. Alors, identité inébranlable, Dieu d'alliance, donc il y a l'esclavage, de l'esclavage on passe à la repentance, de la repentance on passe au salut en Christ seul. Ce salut en Christ seul nous donne, dans la filiation, de redevenir fils et fille dignes et rétablis dans la maison du Père. Et bien sûr que nous avons cette grâce d'être héritier, héritière, co-héritier, et co-héritière de Christ. Et là, vous avez plusieurs versets qui vous parlent justement de cette dimension-là. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire à la suite ces quelques versets, s'il vous plaît, comme ça on va terminer avec l'Écriture quand même, qui définit le fait que, et qui proclame le fait que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est important. Qui c'est qui spontanément, à la suite, me lit ces versets? Romains 4, 6 ou 16. Romains 4, 16, hein? Non, 6. Désolé, j'ai une mauvaise vue. Romains 4, 16. Spontanément. Aussi est-ce par la foi, merci, qu'on devient héritier. On parle de foi, de confiance en Dieu. C'est vraiment une grâce. De la sorte, la promesse est assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. On a parlé de la foi d'Abraham en Genèse 12, hein, au niveau de ce Dieu d'alliance. Notre Père à tous, souligne, héritier, parce que c'est notre Père à tous, amen. Selon qu'il est écrit, j'établis Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle l'existence ce qui n'existe pas encore. Là, on parle bien entendu d'Abraham, Romains 4, versets 16 et 17. Qui c'est qui prend le verset suivant, s'il vous plaît? 8. Amen. Il y a la dimension de gloire, de rétablissement, comme je l'ai dit, de restauration dans ce verset qui est souligné. C'est magnifique. Le suivant, spontanément, s'il vous plaît, Galates 3, 29. Amen. Tu le répètes encore, s'il te plaît. Magnifique. Nous sommes héritiers selon la promesse qui a été faite à Abraham et qui se répercute encore aujourd'hui. Alléluia. Magnifique. Le verset suivant, s'il vous plaît. Amen. Nous avons été élus par la prédestination. Tu es destiné à devenir enfant de Dieu quand tu acceptes la promesse du Père. C'est magnifique. De se savoir prédestiné, c'est une assurance pour toi. De savoir que tout est prévu dans ta vie, dans le plan que Dieu a pour toi dans ta vie. Ça, c'est une identité inébranlable parce que tu sais exactement où tu vas. Parce que tu es conduit par le Père. Amen. Verset suivant. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle par grâce. Tout est grâce. Magnifique. Plus loin, Hébreux 6, 17. Donc c'est une résolution qui est inébranlable. L'amour de Dieu est inébranlable. L'amour de Dieu fait de toi un héritier dans sa maison, selon ses promesses qui sont oui et amen en Christ. Alléluia. Et puis Jacques 2, 5. Ça, c'est une caractéristique du verset qu'on vient de lire et l'histoire du fils prodigue. On est tous pauvres, tous pécheurs. Il n'y a rien à casser, il n'y a rien à cirer. On a tous échoué. Et Dieu va se glorifier de cette pauvreté pour nous rétablir dans sa maison. Tu le relis de nouveau, c'est tellement fort. Qu'il soit riche en la foi afin qu'il soit héritier pour le royaume qu'il a promis. Vous êtes promis au royaume de Dieu dans le rétablissement de votre identité inébranlable grâce à Christ qui fait de vous des héritiers, des héritières, des cohéritiers et des cohéritières de Christ dans le royaume de Dieu. Je me régale, j'espère, avec vous ce soir et vous régalez aussi avec moi, tellement c'est magnifique. Voilà l'histoire du fils prodigue ce soir que nous avons vu. On n'a pas tout vu, bien entendu. Et puis, bien entendu, on a parlé de la croix. Le seul salut possible en Christ, c'est en passant par la croix. Je voudrais juste encore vous lire ce dernier verset, on ne va pas prolonger, de Jean 14, 6, qui va résumer tout ce que nous avons vu ce soir aussi. Vous connaissez le verset de Jean 14, 6, donc on parle bien entendu de la maison du Père. Vous pouvez relire à partir du premier verset. Je vais peut-être juste encore le lire à partir du premier verset. Donc Jean 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Ce soir, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est par la foi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On a parlé de la maison du Père ce soir, dans le Fils prodigue. Sinon, c'est Jésus qui parle, je vous l'aurais dit, il s'adresse à ses disciples bien sûr, car je vais vous préparer une place. Le fait d'avoir cette identité inébranlable te donne cette place dans la maison du Père. Verset 3, lorsque je serai allé vers vous, vous préparez plutôt cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'endroit où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Regardez verset 6, c'est affiché. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Et regardez la deuxième partie de ce verset de Jean 6, nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, tu retournes au Père grâce à Jésus-Christ qui est le chemin, là où il n'y a plus de chemin, la vérité, là où il y a peut-être du mensonge dans ta vie, le chemin, la vérité et la vie, là où peut-être l'ennemi a voulu frapper par la mort. Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir la bénédiction et puis peut-être laisser encore Abraham terminer et conclure ce temps? Père, je te remercie pour ce que nous avons vécu ce soir dans cette identité inébranlable. Merci pour tout ce que nous a montré au travers de ta parole. Merci pour ta douceur, ton amour, ta paix, ta fidélité. Je te prie, Seigneur, ce soir, de rencontrer chacune, chacun là où il en est, dans la grâce de pouvoir te connaître, peut-être de revenir à toi, Seigneur, pour t'aimer, parce que tu nous as tellement aimés. Seigneur, merci parce que ce Jean 14, 6 témoigne, déclare que toi, tu es le chemin. Peut-être que tu te trouves dans une voie sans issue dans ta vie. Jésus-Christ, le chemin. La vérité, peut-être que tu as été victime de mensonges sur ta vie. Ce soir, Jésus est la vérité pour toi. Le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que tu as été frappé par des pensées mortelles, par des pensées difficiles. Jésus-Christ est la vie, et même la vie en abondance. Et souviens-toi de la dernière partie de ce verset. Nul ne vient au Père que par lui. Et c'est dans la maison du Père que tu as cette identité inébranlable. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui, vous êtes la relève de demain. Vous avez reçu une identité inébranlable pour passer le flambeau après nous. Soyez bénis, bien-aimés. Merci.